19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Et propice aux découvertes ou annonces archéologiques, ainsi vient de sortir de terre un mini Stone Age composé de menhirs et d'alignements au sommet d'un col Auvergnat, mais aussi de nombreuses tombes romaines animes comme un grand sanctuaire sacrificiel d'enfants et de culture chimou au Pérou. Figure aussi sous les eaux glacées de l'océan Arctique canadien la découverte de l'épave du Terror, navire mythique de l'expédition Franklin, sombré en 1845. C'est aussi des fouilles à Smolensk, où des ultranationalistes russes et quelques archéologues français passionnés de militaria sont engagés dans la recherche d'un général napoléonien sous l'égide d'un ancien attaché parlementaire de Jean-Marie Le Pen, impliqué dans l'affaire Air Cocaïne, le tout sous la bienveillance du président Vladimir Poutine. Bien plus calme, à l'ombre des ginkgo biloba, les fouilles du jardin des droits de l'homme de Poitiers n'ont guère fait de bruit. Je m'y suis pourtant rendu, puisque les découvertes y sont nombreuses, parfois curieuses, à l'image de ce petit singe gallo-romain exhumé voici quelques années. C'est donc sur le terrain que j'ai retrouvé Benoît Billy de l'INRAP.
On est quand même sur un terrain dont l'emprise de fouilles fait 230 mètres carrés. Et qui nous offre une belle illustration de ce qu'a pu être Poitiers durant l'Antiquité, en tous les cas pour le Haut Empire.
Et puis là, juste devant nous, juste derrière la bande blanche et rouge, pour éviter que l'on ne passe, déjà une sorte de voûte qui apparaît.
Une voûte et qui matérialise en quelque sorte les dernières phases d'occupation pour lesquelles on a des renseignements un peu cohérents. Voilà, on est sur une structure d'époque moderne, une cave voûtée. Et la voûte, on peut le voir, elle a quand même partiellement disparu. On sait qu'on la retrouve un peu plus loin, hors emprise. Mais là, on est dans un secteur où elle a été effondrée assez récemment, en réalité, pour pouvoir y placer les déblais de bâtiments qui ont été démolis.
Quelle est la chronologie de ce site?
Si on reprend les niveaux les plus anciens, on a une occupation antique avec trois phases principales d'occupation reconnues à ce stade. Une occupation médiévale un petit peu lacunaire et ensuite une occupation moderne avant évidemment une exploitation du site à l'époque contemporaine, ce qui n'est pas sans avoir laissé quelques traces violentes.
Mais votre objectif, c'est quand même l'antique, c'est le romain.
Pas exclusivement. La prescription portait effectivement sur un niveau de sol antique qui était relativement bien préservé et qu'il était urgent de pouvoir déposer avant l'aménagement du site. Mais la totalité de l'emprise, elle, fait état d'une belle préservation de niveaux qui correspondent à tout un tas de périodes. Et en fait, toutes ces périodes présentent un intérêt en eux-mêmes. Et l'Antiquité, en tous les cas, n'est qu'un épisode de l'histoire du site. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir restituer l'histoire longue de ce site.
Je croyais que vous étiez venu parce que des mosaïques avaient été vues, avaient été percées même il y a quelques années, et du coup on savait forcément qu'il y avait du coup des vestiges et vous les avez fouillés.
C'est ça. Alors en fait, on avait connaissance d'un niveau de sol décoré d'une mosaïque qui avait fait l'objet d'une première découverte en 2003 et qui avait été dégagée très très partiellement, ce qui n'avait pas été sans laisser des traces sur ce sol. Donc nous, cet hiver, nous avons fait une évaluation sur une partie de l'emprise actuelle et ça nous a permis de retrouver ce sol et de reconnaître d'autres parties du site qui étaient préservées avec parfois un bel état de préservation. Donc c'est à la suite de cette évaluation, effectivement, qu'on a remis un rapport qui a débouché sur la prescription d'une fouille un peu plus large.
Les mosaïques, elles étaient où? Je crois que vous les avez déposées, vous les avez fait enlever pour les faire, bien sûr, restaurer juste hier.
C'est ça. Alors en fait, on avait connaissance d'un sol mosaïqué qui avait été reconnu sur 3 mètres carrés. La fouille a permis d'identifier en différents endroits la continuité de ce sol, ce qui nous a permis d'établir qu'il venait couvrir une superficie d'environ 40 mètres carrés minimum, parce que on n'a pas la totalité du décor. Les occupations ultérieures ont considérablement modifié la configuration antique, ce qui fait que le sol était tronqué sur trois niveaux. Mais en l'état, on a pu dégager une surface qui peut être estimée à 40 mètres carrés, ainsi qu'un second sol de mosaïque un peu plus à l'ouest de l'emprise, très très mal préservé. Hein. Seule une plage de 3 mètres carrés a pu être dégagée, et on sait que lui est tronqué sur la totalité des autres niveaux.
Voilà. Elles sont comment ces mosaïques ?
Elles sont touchantes, elles sont bien préservées, avec un décor assez fin. Ce sont de toutes petites tesselles blanches ponctuées de décors noirs. Alors pour la plus grande, ces décors, ce sont des petits cabochons. Hein. Ce sont quatre tesselles noires qui forment un carré. Et le décor est limité sur les marches par deux bandes latérales noires également. Et le tapis se poursuit avec des bandes de raccords qui sont constituées de tesselles blanches disposées de manière oblique.
C'est ce qu'on voit dans l'angle, là, par exemple, c'est encore ça. Les deux bandes noires sur une sorte de fond blanc.
Oui, c'est ça. Alors ça, c'est un petit témoin, en fait, du premier sol qui a été identifié et qui est préservé sous une épaisse couche de niveau de chantier. C'est un espace qui nous a servi à faire la reconnaissance, justement, de la continuité de ce sol et qui nous permet d'en établir la limite occidentale.
Alors, ce que je vois, c'est qu'il y a une sorte d'énorme dalle de... on va dire de mortier ou peut-être de ciment qui recouvre le tout. Que s'est-il passé ?
Alors en fait, ce que l'on a devant nous, là, c'est le témoin du dernier état de l'occupation antique et qui correspond à un sol de béton lissé, effectivement, hein, constitué d'un hérisson de blocs calcaires avec un mortier de chaux extrêmement fin et consistant, avec le niveau de surface qui est constitué d'un petit galetage de cailloux calcaires lissé. Ce sol fait le raccord avec une belle maçonnerie ici, et comme on peut le voir, l'ensemble est littéralement effondré sur place, affaissé, suite à un accident géologique qu'on est en difficulté de pouvoir estimer aujourd'hui. On ne peut pas dire exactement de quel type d'accident il s'agit. Vraisemblablement, c'est un soutirage qui est provoqué par l'effondrement d'un plafond calcaire d'une cavité, une cave, une cavité naturelle peut-être éventuellement, puisqu'on est sur le plateau avec des réseaux karstiques qui sont connus, ou alors une carrière dont le plafond aurait cédé sous le poids du bâtiment.
Donc les bâtiments, d'un seul coup, ont été, je dirais, soutirés vers une sorte de vide naturel ?
C'est ça. Alors vide naturel, non, justement, il est absolument pas naturel, mais ils ont été, ouais, c'est ça... absorbés par le substrat, ils se sont affaissés sur eux-mêmes, tout du moins une partie de ces bâtiments, hein, et entraînant avec eux la destruction partielle d'une partie des sols et des maçonneries encore en place.
C'est pour ça que les bâtiments que l'on voit là sont complètement inclinés, tout est de biais en fait.
C'est ça. En fait, on est dans un cas de figure qui pourrait s'apparenter à un séisme en quelque sorte.
Et justement, est-ce que ça ne pourrait pas être le fameux séisme, un séisme du 6e siècle dont j'ai entendu parler ?
Alors en fait, des séismes sur Poitiers, on sait qu'ils sont mentionnés depuis au moins la période médiévale. Ce séisme du 6e siècle, je ne sais pas si c'est lui qui est à l'origine de cet accident, mais pourquoi pas, c'est une éventualité.
On va avancer. En passant, ce gros cylindre, ce serait quoi ?
Alors ça, c'est un bloc, enfin c'est un élément de colonne en marbre qui est affaissé dans un niveau de démolition et qui vient prendre appui sur les maçonneries qui correspondent elles aussi au dernier état de l'occupation. Donc en fait, là, on est dans les couches de démolition qui ont précédé l'abandon du site.
On se trouve où dans la cité romaine de Poitiers ?
Alors là, en fait, on est sur le plateau. Donc pour le Haut Empire, on est dans le cœur monumental de la ville. Hein. On sait par les exemples qui nous sont fournis par les fouilles ultérieures qu'on est au sein d'un réseau de bâtiments monumentaux, public ou privé, on aura l'occasion d'y revenir. Et puis ensuite, pour le Bas-Empire, on est à l'intérieur du castrum, en marge même de l'enceinte qui a été dressée au tout début du 4e siècle.
Le castrum, c'est le fortin.
C'est ça.
Poitiers semble une ville extrêmement puissante, de toute manière. C'est la grande ville régionale.
C'est l'une des grandes villes régionales de la Gaule-Aquitaine. Hein. On a d'autres villes d'importance. Hein. On a Bordeaux, on a Saintes. Mais effectivement, en tous les cas, la ville du Bas-Empire témoigne d'un statut tout à fait particulier de la cité. Ouais.
On connaît son nom ?
Lémonum.
Et Lémonum va devenir extrêmement puissante, puisque visiblement elle devient une sorte de capitale régionale ?
Alors en fait, Il est déjà vraisemblable que les Monom soient une cité puissante, puisqu'elle est dotée d'une enceinte qui figure parmi les mêmes les plus importantes de Gaule. Hein. Des exemples similaires peuvent être retrouvés après plus au nord-est de la France. En tous les cas, c'est l'une des plus importantes de la Gaule Aquitaine.
Et elle devient capitale.
Et elle devient capitale de l'Aquitaine. C'est effectivement une ville qui a un statut tout à fait particulier et une ville puissante.
Benoît Billy, en tout cas, la puissance de la ville romaine ne serait-elle pas due à la trahison des Gaulois, la trahison des fameux Pictons qui, bien sûr, firent alliance avec César?
Pourquoi pas imaginer qu'effectivement la puissance de la ville a pu être mise en relation avec cette trahison? C'est un sentiment que je ne partage pas forcément, mais en tous les cas, on peut émettre cette hypothèse, tout en ayant à l'esprit que le concept de trahison nous appartient aujourd'hui.
Et que sait-on sur ces Pictons? On sait que leur ville, leur oppidum, leur cité gauloise était bien dans Poitiers, mais pourquoi ne l'a-t-on jamais trouvé? Pourquoi ne serait-ce pas en dessous?
Alors en fait, ça c'est un sujet assez brûlant pour nous. Effectivement, on est depuis plusieurs années à la recherche de ces indices permettant de pouvoir préciser exactement où se trouve l'oppidum. Mais par ailleurs, on sait que plusieurs fouilles ont apporté des indices de cette occupation qui restent malgré tout très ténues. Après, il faut bien garder à l'esprit que la machine romaine, lorsqu'elle se met en route, est absolument redoutable. Et les différentes observations qu'on a pu faire pour les phases anciennes de cette occupation sur Poitiers nous amènent quand même à considérer qu'on a une espèce de rouleau compresseur qui fait un peu table rase du passé. Et pour avoir déjà fait des observations concernant des installations de voiries ou de bâtiments monumentaux, on a pu constater qu'effectivement le terrain est littéralement pelé, ce qui fait que ça laisse peu de chances de conserver des états antérieurs. Par ailleurs, ça tient aussi au fait que cette occupation gauloise, elle laisse des traces relativement fugaces, et à moins de tomber sur des plans de bâtiments qui seraient effectivement bien préservés, les bâtiments dont l'architecture sont effectivement peu pérennes laissent peu de traces.
Une ville romaine, on sait que c'est l'œuvre des arpenteurs. On connaît par exemple les axes nord-sud, est-ouest, le fameux Cardo et Décumanus au cœur de cette ville.
Oui, alors en fait, concernant les axes de circulation, on a une trame vière qui est établie effectivement depuis assez longtemps. Régulièrement, les travaux dans le centre-ville nous amènent à reconsidérer la véracité de ces axes. Hein. On a pu observer, notamment pour la Grand Rue, des modifications de façade, et ce qui nous amène effectivement à reconsidérer le tracé initial que l'on imagine gravé dans le marbre et qui ne l'est pas du tout. Et puis par ailleurs, des voies secondaires, voire même des voies qui ont servi très peu de temps, sont parfois identifiées à l'occasion de petites opérations, ce qui fait que le réseau définitif viaire pour l'Antiquité reste encore à préciser.
Et que connaît-on des bâtiments publics de la ville? Au moins les thermes, mais aussi un très grand amphithéâtre?
Oui, alors les bâtiments publics, un certain nombre en tous les cas, ont déjà pu être identifiés, bien documentés. Les thermes, effectivement, ont fait l'objet d'une attention tout à fait particulière depuis assez longtemps, avec le père Camille Delacroix. Et puis, on a cet amphithéâtre dont on se targue, parce que c'était, un très bel édifice conservé jusqu'à la moitié du 19e, qui déjà avait vraisemblablement beaucoup souffert, puisque de tout temps, il a été réutilisé, et notamment à l'époque médiévale, avec l'exploitation de caves dans ses sous-bassements.
En 1858, il serait quasi rasé?
Quasi. On en a encore un tout petit reste aujourd'hui qui est visible dans le paysage. Et puis on a hérité de son empreinte avec la trame urbaine qui a épousé les contours exacts de cet amphithéâtre.
Pourquoi s'implanter ici? Visiblement, on a une occupation gauloise, même si on ne l'a pas trouvée. On a ensuite une très forte implantation romaine, puis bien sûr médiévale. Poitiers est une situation idéale pour créer une ville?
Le site naturel même est effectivement particulièrement favorable. Il offre à la fois une protection naturelle en raison des deux cours d'eau qu'il borde, hein, le Clain et la Boivre, avec un accès relativement limité et étroit qui permet d'en contrôler l'arrivée. Donc c'est un site qu'on peut effectivement considérer comme favorable à l'installation d'une ville gauloise, puis romaine bien évidemment, et peut-être même antérieure à l'installation des Gaulois.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Benoît Billy, on parlait de ces murs qui penchaient, qui avaient été peut-être soutirés par une cavité, voire éventuellement un tremblement de terre. Là, on est tout à fait sur autre chose. On est sur des mortiers très lisses, des murs très droits, qui plongent d'ailleurs, puisque vous avez des tranchées latérales. On est sur autre chose ?
Non, alors là, en fait, on est sur le niveau de préparation qui ont reçu le sol de mosaïque, qui a été déposé au cours de ces derniers jours. C'est-à-dire que une fois bien dégagé, nettoyé et après avoir fait toutes les observations qui s'imposaient sur le terrain, il a fallu procéder à la dépose de ce sol de manière à l'extraire et à l'envoyer ensuite vers un centre archéologique où les études se poursuivront et avant même d'envisager une restauration. Et là, on est devant la préparation de sol avec ce petit lit de chaux qui a servi à accueillir les tesselles qui constituaient le décor.
Et puis un gros mur juste à côté.
C'est ça. Ces murs, en fait, ne fonctionnent pas avec ce sol. On peut voir ici qu'on a une espèce de petite tranchée qui vient littéralement recouper le sol du deuxième état. Et ces grosses maçonneries sont conservées exclusivement les arases des murs, avec, comme on peut le voir vers le sud, le départ d'autres maçonneries qui viennent délimiter des espaces intérieurs. Et puis des sondages qui ont été faits de part et d'autre afin de vérifier la puissance des fondations. Et on voit effectivement que ces fondations sont particulièrement importantes. Là, dans ce sondage qui n'a pas pu encore être achevé, on a déjà des fondations qui vont à plus de 85 cm de profondeur.
Votre premier constat, c'est peut-être de dire qu'on est sur un bâtiment assez riche. Des mosaïques, du marbre, c'est déjà beaucoup.
C'est beaucoup. Ça a été confirmé lors de la fouille par la découverte d'autres éléments architectoniques qui viennent illustrer un peu la parure monumentale des bâtiments que nous sommes en train de fouiller. Effectivement, on est sur des bâtiments cossus, sur des bâtiments riches, même si le décor du sol nous permet de dire qu'on est sur un espace qui n'est pas ostentatoire, mais qui reste un espace de circulation. C'est quand même un sol pour lequel on a apporté un soin tout à fait particulier, et qui évoque un certain luxe en quelque sorte.
Alors on est dans un bâtiment public ou on est chez tout simplement un riche privé ?
La fouille ne permet pas à l'heure actuelle de statuer sur l'un ou l'autre de ces bâtiments. Il faut savoir que l'emprise de fouille fait 230 mètres carrés, ce qui en contexte urbain est important, on peut le voir par rapport à la richesse des vestiges mis au jour. Mais en revanche, compte tenu des bâtiments qu'on est amené à fouiller, cette surface est en réalité tout à fait ridicule. Quand on regarde la superficie des niveaux antiques qui sont dégagés, on peut estimer cette superficie à moins de 80-85 mètres carrés, peut-être tout au plus. Et en fait, quand on sait qu'on est dans des bâtiments publics ou privés qui sont monumentaux, c'est absolument dérisoire. C'est des bâtiments qui peuvent faire plusieurs centaines de mètres carrés. Et l'illustration qui nous est donnée aujourd'hui n'est qu'une toute petite vignette de ce que pouvaient être les bâtiments de cette occupation.
Alors il faut peut-être regarder le plan de la ville romaine tel qu'on le connaît aujourd'hui, peut-être voir aussi les fouilles qui ont été faites juste de l'autre côté du bâtiment, à quelques dizaines de mètres. Qu'est-ce que l'on avait? Si on compare l'un et l'autre, est-ce que cela fournit des éléments?
On pouvait deviner la présence de bâtiments de ce type en ce secteur de la ville. Tout l'intérêt de la fouille sera restitué à l'occasion de la remise en contexte avec précisément les données qui ont été collectées à l'occasion des fouilles anciennes, à commencer par évidemment celle de la médiathèque toute proche, qui avait livré des plans de bâtiments et des indications concernant l'édification de l'enceinte du Bas-Empire, mais aussi avec des découvertes faites rue de l'université toute proche, où là encore des éléments relatifs à cette enceinte du Bas-Empire avaient pu être découverts. Mais je pense tout particulièrement aux fouilles qui sont anciennes et à celle de la place Charles de Gaulle par exemple, où on avait des ensembles qui pourront être comparés aux données collectées sur ce site. Oui.
En tout cas, on n'est pas du tout dans la banlieue avec ces petites maisons pauvres, ce que l'on appelle le suburbium. J'y ai souvenir qu'il y avait plutôt des maisons d'artisans avec des quartiers de fumage de viande, ce genre de choses-là. On n'est pas du tout là-dessus.
Non, on est bien à l'écart de ce secteur. Et le suburbium, on avait pu l'aborder en 2013 à l'occasion d'une très belle fouille, notamment en fait, sur le quartier Saint-Cyprien, où effectivement on avait un quartier où une activité artisanale liée au fumage de la viande avait pu être fouillée.
et ce sont en général des maisons en bois.
Oui, ou en tout le moins qui présentent un aspect nettement moins monumental. Hein. Après, ce sont des maisons à étage et les cloisons, elles, sont faites en bois avec des matériaux moins prestigieux, évidemment, mais qui restaient des demeures de belle facture.
En 2012, une tombe très particulière est fouillée. Une étonnante histoire entoure le défunt.
Oui, alors en 2012, sur le site des Caillons, hein, qui était une fouille qui a été réalisée par Frédéric Gerbert, une découverte assez étonnante a pu être faite, qui était relative à la découverte d'un petit singe inhumé dans un enclos funéraire. Et ce petit singe, nécessairement, comme toutes les découvertes un peu farfelues qu'on est amené à faire, s'est vu doté assez rapidement d'un petit nom. Et puis il a été pris en affection, mais c'était effectivement une découverte assez surprenante pour nous, et puis même pour le site en lui-même, on ne s'attendait pas du tout à faire ce genre de trouvailles.
Alors c'est un cercopithèque, donc un petit singe à queue, les archéologues l'ont dénommé Barbatus, le barbu, le poilu, il n'y a pas que Toumaï à Poitiers qui peut porter des noms, et puis d'ailleurs il n'y a pas que les hominidés qui portent des noms, on connaît bien sûr Helmut le mammouth, célèbre découverte de mammouth il y a quelques années. Ce qui est très intéressant, c'est la manière dont ce petit singe a été enterré et où il a été enterré.
Oui, alors effectivement, on a une belle collection de poilus sur Poitiers, et ce petit singe en fait partie, et il avait la particularité d'être enterré un peu à la manière des nourrissons, dans une fosse qui était enrichie avec des blocs, et qui était effectivement tout à fait particulière, en tous les cas pour laquelle on a apporté un soin qui est évident pour un animal, mais qui est un animal de prestige, hein. C'est absolument pas le genre d'animal qu'on est amené à rencontrer, en tous les cas pas en Gaule.
Et il était enterré dans un complexe funéraire familial.
C'est ça. Il donne une assez belle image du statut de son propriétaire, puisque bon, pour ce type de petits singes, on devine qu'il faut aller les chercher à l'occasion de voyages au sein de l'Empire. Et c'est une belle illustration, là aussi, du statut et du rôle peut-être un peu particulier qu'ont pu jouer certaines personnalités à l'époque dans la ville romaine.
Et ça montre aussi la richesse de Poitiers à l'époque romaine, dans ces cas-là, ou antique.
Antique, oui, c'est ça, pour la ville antique, on a un bel ensemble d'individus un peu atypiques.
Alors j'ai beaucoup travaillé le sujet, j'ai vu qu'on ne connaissait que 7 singes dans tout l'Empire romain, enfin du moins qui avaient été fouillés. J'ai vu que, bien sûr, celui de Poitiers avait été découvert. 2 autres ont été découverts aussi en Gaule.
Oui, je crois que la découverte de singes dans des contextes antiques en Gaule peut être établi au nombre de 3.
Je sais qu'à Narbonne, un macaque a été trouvé. Il avait été jeté dans un puits d'une maison, hein, avec d'ailleurs pas mal de fœtus, et puis des chiens. Et puis, il y a eu un troisième singe qui a été découvert donc dans une nécropole à Cutry, en Meurthe-et-Moselle, en 1975. Les ossements d'une femelle qui, visiblement, était très âgée et qui avait été enterrée en bordure d'un dépotoir daté du IIe siècle de notre ère. Et l'animal, comme à Poitiers, était enterré dans une fosse, sur le dos, les jambes légèrement fléchies, avec les bras le long du corps. Tout ça est très beau. De temps en temps, vous avez ce genre de découverte qui met un peu de chair autour de l'os, dirais-je. Ça vous arrive d'avoir de l'émotion en tant qu'archéologue ?
Oui, notamment à l'occasion de la fouille qui est en cours, hein, puisque aucun d'entre nous n'avait eu l'occasion par le passé de fouiller un ensemble comme celui qui est en cours actuellement. Et la découverte de ce sol a été un petit moment d'émotion pour chacun d'entre nous. Et la possibilité de s'agenouiller et de venir le nettoyer comme ça, lentement, délicatement, et de le découvrir un petit peu plus chaque jour, ça a été un moment de plaisir partagé. La découverte de ce second sol de mosaïque, donc il y a maintenant 2 semaines de ça, a été pareil, entouré d'une belle émotion, parce que lorsque l'on tombe dessus comme ça, de manière un peu, pas tout à fait par hasard, mais c'est toujours une belle découverte, et on a l'impression de faire revivre un petit peu quelque chose qui a été scellé il y a près de 2000 ans, de manière délibérée d'ailleurs, et on a l'impression d'ouvrir un livre et de se plonger dedans avec délectation.
Et oui, on pense bien sûr aux gens qui ont marché sur cette mosaïque. On sait d'ailleurs le nombre de gens qui vivaient dans cette cité de Poitiers antique. J'ai vu que l'on avait essayé de calculer ça via le nombre de places dans l'amphithéâtre, par exemple.
Pour l'amphithéâtre, je sais qu'une estimation avait été faite qui avoisinait 20 000 habitants. Je sais aussi que pour le Bas-Empire, on estime à plus probablement 16 000 habitants le nombre d'habitants du castrum.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est à peu près le même chiffre au XIVe et XVe siècle.
C'est ça. Mais ce qui démontre que la ville, finalement, a assez peu évolué. Et en tous les cas, elle est restée enserrée dans un tissu très dense. Et il a fallu attendre relativement tardivement, en réalité, l'explosion de la ville en dehors de ses murs, hein, pour voir la population augmenter considérablement.
Vous avez trouvé un peu de matériel archéologique, puisque c'est quand même dans un quartier assez riche. Vous avez des objets, vous avez ce genre de choses, même si les archéologues regardent ça avec une certaine distanciation.
On a en réalité très peu de mobilier pour la période antique, mais ce qui correspond assez bien à l'occupation que l'on est amené à fouiller, hein, puisqu'on est sur des lieux de passage. On est probablement dans un péristyle, donc qui se prête peu à la collecte de mobilier, puisque naturellement ce sont des espaces qui sont entretenus. En revanche, à l'exception des petits éléments architectoniques que j'ai pu évoquer tout à l'heure, hein, qui sont constitués de fragments de corniches en marbre, de plinthes ou d'éléments de plaquage en marbre ou en calcaire très fin, on a pu découvrir des petits fragments d'enduit, qui sont les revêtements muraux qui venaient habiller les cloisons, des petits fragments d'enduit qui ont été décorés et qui portent des graffitis.
Formidable.
Formidable, oui. On a, sous forme de fragments, plusieurs éléments qui nous amènent à penser qu'on avait peut-être un bestiaire, ou en tous les cas, on avait quelques animaux domestiques qui sont représentés, donc de manière très incomplète, évidemment. On a des fragments de mots, on a des petits bouts de texte qui sont reportés sur ces enduits.
Et des textes dont on ne sait s'ils sont écrits en gaulois ou en romain.
C'est vrai, on ne sait pas, et c'est le temps de la fouille qui permettra peut-être de préciser effectivement s'il s'agit d'une langue compréhensible ou simplement d'un gribouillis d'enfant qui est venu décorer le mur de passage.
Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Philippe Mercher, et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, le magazine d'archéologie de France Culture se penchera sur une des premières révolutions industrielles, l'âge du bronze.